franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, pourquoi y a-t-il plus de garçons dyslexiques que de filles? La réponse du chercheur Franck Ramus et de la pédiatre Marianne Chatriot.
On le constate en clinique, il y a beaucoup plus de garçons. Alors je pensais peut-être plus de près de 2 que de 3 entre les deux. Mais il y a beaucoup plus de garçons, c'est certain.
Alors pourquoi Franck Ramus?
Donc effectivement, je dirais aussi plutôt 2 garçons pour une fille.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des garçons?
On n'a pas la réponse définitive à cette question. C'est sans doute pas une différence génétique, parce qu'a priori, les facteurs génétiques prédisposant à la dyslexie sont les mêmes chez les garçons et chez les filles. La meilleure hypothèse qu'on ait, c'est de dire juste que les prédispositions à la dyslexie agissent sur le cerveau de l'enfant, mâle et femelle, de manière différente, parce que le cerveau des filles et des garçons sont imprégnés d'hormones sexuelles qui sont différentes et que ça produit des réactions qui sont différentes. On a un peu cette idée, de manière générale, que le cerveau des filles est un petit peu plus résilient aux perturbations, qu'elles soient d'origine génétique ou qu'elles soient d'origine prénatale, périnatale. Ce qui fait que pour beaucoup de troubles du développement du cerveau, les garçons sont plus affectés.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que le cerveau a un sexe, Franck Ramus? Je sais que vous avez beaucoup étudié la question.
Je ne l'ai pas beaucoup étudié. Non,
vous en avez parlé, en tout cas.
Il y a pas mal de données qui suggèrent qu'effectivement, les cerveaux des garçons et des filles ne sont pas strictement identiques. Et ça se traduit notamment par des prévalences différentes d'un certain nombre de troubles du cerveau.
Bon, tout le monde n'est pas d'accord, hein. C'est une question très épineuse au sein même des sciences, mais bon, c'est pas le débat.
Mais enfin, c'est vrai que il est probable que toute cette différence se retrouve dans tous les troubles dys, la dyspraxie, la dysphasie, il y a plus de garçons.
Mardi, faut-il nourrir les oiseaux l'hiver? L'ornithologue Frédéric Giguet nous répondait.
C'est à peu près évident qu'on ne va pas changer le cours des choses totalement, à part pour ces quelques oiseaux, en nourrissant notamment en hiver. Mais par contre, c'est important d'avoir ce lien avec la nature. C'est important d'aider les oiseaux quand ils en ont besoin. Je préciserai quand même, alors après il y a différentes philosophies sur ces nourrissages. Moi je conseillerais quand même d'arrêter de nourrir au moment où les oiseaux vont se reproduire. Et surtout quand les jeunes oiseaux vont s'envoler du nid et où ils vont devoir apprendre à se nourrir seuls. Une petite mésange qui quitte le nid, il faut qu'elle apprenne à trouver des chenilles et des insectes dans les écorces, dans le feuillage, sinon elle n'arrivera pas à survivre. Et si elle prend l'habitude, dès l'envol, de venir à la mangeoire chercher des graines de tournesol, elle ne pourra pas survivre très longtemps. Donc là, ce serait une aide très ponctuelle, mais qui vouerait ces oiseaux à une mort certaine peu de temps après.
Mercredi, comment choisissons-nous nos experts? Avec Gloria Origi, spécialiste de la réputation.
La réputation des experts, justement, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que on a des critères pour la sélectionner et très souvent sont complètement biaisés, d'une certaine façon, par des aspects affectifs, émotionnels, etc. Et donc, tous ensemble, nous acceptons, disons, des mécanismes pour reconnaître la réputation qui sont vraiment biaisés. Comme par exemple, ce médecin doit être très bon parce que j'ai entendu une fois, ce pédiatre doit être, il est vraiment très bon. Je te le conseille parce que Carla Bruni a le même pédiatre. Enfin, donc un domaine réputationnel comme la chanson ou bien la politique,
ça valide,
qui coule dans la science médicale. Et pourquoi et comment et etc. Quelles sont les inférences qu'on fait pour faire couler la réputation. Donc c'est ce que j'ai dit dans mon livre. Très souvent, ces réputations sont biaisés d'abord par des effets des réseaux. On sait bien que les réseaux ont la tendance à cumuler la réputation. Plus vous avez des réputations, ça c'est très bien connu en sociologie, justement, plus vous allez en avoir. Et de l'autre côté, il y a énormément de biais cognitifs, affectifs, parfois culturels, qui conditionnent la façon, il faut faire attention. J'ai donc quelques règles dans mon livre de comment faire attention, qui conditionnent la façon où nous sélectionnons ces experts.
Jeudi, notre peau et ses fragilités avec les dermatologues Marie-Alette Richard et Florence Corgibet.
C'est très solide et en même temps très plastique et très élastique. C'est ces caractéristiques-là qui sont particulières par rapport à d'autres structures. C'est à la fois très résistant et en même temps très, comme je le disais, plastique, malléable. Et ça, c'est vraiment lié aux différents tissus de la peau.
Et fragile parfois.
On est tous très fragiles. Bien entendu, notre peau peut être fragile et c'est pour ça que nous sommes là, pour aider à justement consolider les structures.
Florence Corgibet, quelles sont les maladies de peau en pleine recrudescence actuellement? Vous me les avez citées hors antenne, c'est assez stupéfiant quand même ce qui se passe. Hein.
Alors, une vedette, je dirais l'eczéma, oui. Parce que nous savons qu'il y a de plus en plus de problèmes allergiques, et donc l'eczéma, en particulier l'eczéma du nourrisson, fait partie de ces maladies allergiques qui sont en pleine expansion, mais également la version professionnelle de l'eczéma est importante. C'est une des l'eczéma de contact est l'une des et la première maladie professionnelle, source de reclassement professionnel, donc c'est une problématique importante. Et puis on a des pathologies un peu anciennes.
Des comebacks, on dirait.
Des comebacks. Ouais. La gale, par exemple. Ouais, ça, la gale est en pleine expansion, avec un visage différent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un peu la gale des gens propres. Ce sont des personnes qui ont une contamination, souvent par des collègues ou par des adolescents dans leur entourage proche ou alors dans des services hospitaliers ou des choses comme ça.
Donc la gale, l'eczéma
une vieille pathologie, toujours sur le devant de la scène, dans les maladies sexuellement transmissibles, la syphilis également, doit toujours être
à surveiller
et à dépister.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.